Madame Catherine Samapanza, bonjour.
Bonjour, Monsieur Armando.
Madame, gouverne autrement, c'est votre slogan, alors que sous votre administration, les Centrafricains déplorent Angola Gate. L'Angola Gate, vous le savez très bien. Quelle est votre part de vérité dans tout cela?
Beaucoup de choses ont été dites sur l'Angola Gate. Des choses généralement erronées. Je suis audible. C'est le moment pour moi maintenant de donner les explications nécessaires sur le don angolais. Je n'ai pas été en Angola prendre de l'argent dans des sacs et les ramener à Bangui. Au mois de janvier 2014, les chefs d'État de la CEAC ont décidé d'apporter un appui conséquent à la République centrafricaine. Cet appui devait servir à moitié pour le soutien à la MISCA qui était à nos côtés et de moitié au fonctionnement de la République centrafricaine pour nous permettre de faire face à nos obligations régaliennes. Une clé de répartition avait été indiquée pour le rassemblement des 100 millions de dollars qui avaient été arrêtés, à savoir 50 milliards de francs CFA, à raison de 5 milliards par État membre de la CEAC. L'Angola a eu des difficultés, n'étant pas de la zone CFA et fonctionnant sur la base de dollars. L'Angola a donc proposé de décaisser ces 5 milliards en deux tranches. Une première tranche avait été amenée. Nous avons eu des difficultés de change au niveau national parce que, à l'époque, compte tenu des difficultés, aucune banque n'était en mesure d'absorber les 2 milliards et demi que l'Angola avait apportés. Nous avons dû nous adresser à la sous-région. Seule la filiale EcoBank de Douala a accepté de procéder au change. Nous avons donc envoyé une mission à Douala qui a pu faire le change, déposer cet argent sur le compte BEAC de la République centrafricaine à Yaoundé et qui nous a ensuite crédité le compte du Trésor public. Au mois d'avril, nous avons reçu la deuxième tranche. Nous avons pu seulement changer la moitié, c'est-à-dire 1 milliard 250 000. Mais comme le premier change opéré à Douala a été très coûteux pour la République centrafricaine, nous avons pratiquement perdu presque 200 millions en termes de change et de transport sécurisé. Nous avons réparti cet argent entre les principales institutions qui avaient besoin de cet argent. Nous avons utilisé cet argent essentiellement pour payer les bourses, les pensions et les arriérés de salaire. Nous avons également utilisé cet argent pour les besoins de sécurité. Nous avons également utilisé cet argent pour les besoins de renseignement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je ne vous donnerai pas toutes les explications sur l'usage réel de cet argent parce que la morale politique m'empêche et je me réserve de donner la liste et les noms des bénéficiaires de cet argent.
En conclusion, donc il n'y a pas un détournement tant que tel.
Il n'y a pas eu de détournement. J'ai toutes les pièces comptables. Le FMI, lors de sa revue monétaire au Cameroun en juillet 2014, a été saisi des dépenses hors budget. Nous avons fait le point avec le FMI qui nous a demandé de régulariser ces dépenses hors budget. Nous avons procédé à la régularisation de toutes ces dépenses. Si j'avais vraiment détourné, M. Armando, est-ce que le nouveau gouvernement arrivé aurait trouvé 7 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État?
Et cette question vous dérange?
Mais ça, si vous voulez, ça ne me dérange pas parce qu'il n'y a pas eu d'explication. Il y a eu beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux et je pense que c'est légitime.
Vous savez que c'est quand même une accusation de trop. Vous ne pensez pas que vous êtes marqué au fer rouge?
Oh, je ne suis pas marqué au fer rouge. Quand on est responsable, quand on a eu à assumer les plus hautes charges de l'État, on est exposé à toutes sortes de critiques. C'est ça le lot, le revers de la médaille de gouverner.
Madame, s'il faut reprocher un déficit dans la gestion de la cité à votre successeur, je vous dis, Faustin Cantois dira, ce sera lequel selon vous?
Je n'aime pas parler des autres.
Pourquoi?
Je fais un constat de la situation du pays sans porter un doigt accusateur sur qui que ce soit.
Mais si ça ne va pas, vous le dites quand même.
J'ai dit que nous avions des problèmes sécuritaires. J'ai dit qu'il y avait des problèmes de grande pauvreté. J'ai dit qu'il y avait des problèmes humanitaires. J'ai dit qu'il y avait des problèmes de réconciliation, de concertation et de dialogue. Que voulez-vous que je vous dise d'autre?
Le processus électoral suit son cours avec la crise de confiance des acteurs qui y va avec. Hein. D'aucuns tablent sur la concertation comme ultime solution. Le pouvoir crée une transition, qu'en dites-vous?
Écoutez, je suis profondément démocrate et j'ai du respect pour notre loi fondamentale qu'est la Constitution. C'est à partir de la Constitution que l'Autorité nationale des élections a établi son chronogramme. Et ce chronogramme prévoit que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels.
Le 27 décembre.
Le 27 décembre. Nous devons tous faire en sorte de tenir ce délai constitutionnel. L'ANE fait les efforts qu'elle peut pour essayer d'organiser ces élections. Mais nous connaissons les difficultés réelles de terrain. Nous savons qu'il y a des problèmes réels d'organisation. Nous savons que le processus avance difficilement. Je pense qu'il est important, dans le cadre de la concertation, si nous nous rendons compte que nous n'avançons pas bien dans le processus, effectivement, de revenir à la proposition faite par la Cour constitutionnelle qui nous a suggéré, en dernier ressort, de réunir toutes les forces vives de la nation et d'essayer de trouver des solutions de sortie de crise. Mais avant tout, tenons-nous à la Constitution et à tous les aspects prévus par la Constitution en cas de vacance de pouvoir.
Craignez-vous le contraire, carrément?
Le contraire?
Oui.
Je ne crains pas le contraire, Armando. Je dis simplement, tout en voulant respecter les termes de la Constitution, soyons réalistes.
Madame Catherine Samapanza, merci.
Je vous en prie.